Bonjour. La dernière fois, je vous ai dit que Dieu est esprit. Je vous ai expliqué ce que je pouvais à ce sujet. Je pense que c'était assez clair. Dieu est esprit aujourd'hui. Je veux vous montrer que la Bible dit que Dieu est une personne. Par exemple, Dieu aime. Dieu parle. Dieu fait. Il sent. Il pense. Il souhaite, il veut. Parfois même il est jaloux, parfois il est en colère. En fait, c'est une personne. En fait, tout ce que nous attribuons à une personne, nous voyons que Dieu le fait. Alors bon, sur la terre, nous confinons notre personnalité au corps. On voit une personne, c'est-à-dire on voit son corps, on croit qu'on voit une personne, mais la réalité, c'est l'esprit qui est la personne. Notre esprit limité a de la peine à se figurer une personne n'existant pas avec de la chair et des os. C'est un peu difficile à comprendre. Nous savons que notre propre personnalité ne restera pas toujours cloîtrée dans le corps et qu'elle habite maintenant. On sait bien que lundi matin, j'ai parlé au téléphone avec mon ami Gino vers 9h et il était dans son corps et à 11h, ben, il est décédé. Son corps est toujours là, il pèse le même poids, mais quelque chose est parti. Son esprit est parti vers Jésus. C'était un homme avec qui je priais. Nous savons tous que à notre mort, notre corps ne sera plus habité par notre esprit. Et cependant, nous acceptons ça avec peine. Quelle révélation si les gens pouvaient comprendre que la personnalité n'est pas un être physique. Dieu n'est pas limité à un corps et pourtant, il est une personne. Il nous aime, il nous pardonne, il sympathise avec nous dans nos difficultés, dans nos chagrins. Troisièmement, la Bible dit que Dieu ne se révèle pas que seulement comme un esprit ou une personne, mais il révèle qu'il est saint, qu'il est parfait, qu'il est juste. Il est un être juste, une personne juste. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu se révèle comme un Dieu saint, absolument parfait dans tous les détails. Si les êtres humains pouvaient savoir, pouvaient saisir la véritable image de sa majestueuse justice, quelle différence ça ferait dans leur manière de se comporter, de vivre en tant qu'individu, puis aussi collectivement. Si nous pouvions tous percevoir un instant le gouffre terrible qui sépare l'homme limité de la parfaite justice de Dieu, le monde changerait immédiatement. La Bible déclare que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Il est sans défaut, sans tache. Cela encore, l'être humain ne le conçoit que très difficilement. Il va même jusqu'à accuser Dieu des conséquences des faits commis par l'humain. Nous avons, avec nos fautes et avec nos faiblesses, nous avons de la peine à imaginer l'écrasante sainteté de Dieu. Cependant, il nous faut la reconnaître si nous voulons comprendre la Bible et en tirer profit de cette connaissance. L'abîme qui sépare l'homme imparfait du Dieu parfait est rappelé tout au long des Saintes Écritures. La Bible déclare que le trône de Dieu est fondé sur sa sainteté. Et c'est parce que Dieu est saint, que l'homme et que l'homme ne l'est pas, qu'un si grand vide existe entre Dieu et le pécheur impénitent. La Bible dit que ce sont aux iniquités, c'est-à-dire nos injustices, nos péchés qui nous séparent de Dieu. Elle dit même que c'est à cause de nos péchés que sa face nous est cachée et qu'il n'écoute même pas nos prières quand nous crions à lui, quand nous sommes dans un état comme ça. Dieu est trop pur pour regarder et approuver le mal. Avant que le péché soit entré dans ce monde, vous savez, la communion existait entre Dieu et l'homme. Il n'y a qu'à lire la Genèse. Dieu venait le soir dans le jardin, il parlait avec eux, il l'entendait, il le voyait, il l'entendait arriver. Maintenant, cette communion, elle est rompue. Et toute communion entre Dieu et l'homme est devenue impossible. C'est devenu impossible. C'est devenu impossible en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui peut rétablir cette communion. Nous sommes pécheurs et incapables de changer d'état, incapables d'atteindre l'oreille pure de Dieu avec nos prières, nos supplications, tout ça. Et nous serions à jamais perdus si Dieu, dans son amour, n'avait pas envoyé son Fils pour jeter un pont sur cet abîme qui nous sépare de lui. Il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que nous puissions avoir accès auprès de lui. Mais si nous ignorons volontairement le secours qu'il nous offre, sa main tendue, et si on ne se soumet pas, si on n'obéit pas à ces bonnes lois, nous ne pourrons jamais l'implorer, nous ne pourrons jamais implorer sa pitié quand le châtiment nous tombera dessus. Il ne nous écoutera pas. Vous voyez ? La sainteté et la justice de Dieu exigent la plus sévère condamnation du péché. Il dit... L'âme qui pêche est celle qui mourra, qui sera détruite. Et c'est Jésus qui est venu pour payer la dette à notre place, en offrant sa vie en sacrifice volontaire à la croix. Il a dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Je la donne en sacrifice pour que vos péchés puissent être pardonnés si seulement vous croyez. Nous ne pouvons pas passer par un autre chemin que Jésus-Christ. Il est le seul chemin. Il a dit, je suis le chemin. Il n'y en a pas deux ou trois. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que lui. Alors pensez-y, repentez-vous, mettez en pratique ce qui est écrit dans la Bible que vous comprenez, et vous verrez votre vie changer, être absolument transformée. Mais il faut passer par Jésus. Ça ne sert à rien d'essayer de passer par un saint ou par une sainte ou par une religion ou demander à quelqu'un de prier pour vous. Non, c'est vous qui devez faire la démarche de dire « Oui, mon Dieu, j'ai péché. Je crois que tu as pardonné mes péchés en mourant sur la croix. Tu as pris tout ça sur toi et maintenant, je te remercie. » De me permettre d'avoir de nouveau une relation avec le Père Céleste. Faites cela. Et vous verrez. Vous verrez, vous comprendrez. Et petit à petit, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.